Yes. On ne peut pas rester indifférent à ce que Christ a fait pour nous. Je vous souhaite la bienvenue ce matin, c'est bon de vous voir, et bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous suivent sur Internet. Bienvenue à vous si vous êtes là en visite pour la première fois, ou peut-être que vous écoutez sur les réseaux ce message pour la première fois. La semaine passée, le message était intitulé « Incapable ». D'ailleurs, ça fait écho avec ce qu'on vient d'entendre, je n'ai rien à ajouter. Incapable. Et lorsque j'ai terminé le message, je rentrais à la maison et je me suis dit, évidemment, je pouvais pas continuer parce que ça aurait été un autre 40 minutes de plus, 30 minutes. Je me suis dit, il manque quelque chose à ce message. Il y a besoin d'être complété. Et j'ai appris que malheureusement, il n'a pas été enregistré en plus. Donc, l'erreur est humaine. Ça démontre juste qu'on est des êtres humains. Personne n'est parfait. Et c'est ça la beauté de l'Église, c'est que personne n'est parfait. En fait, cette Église était parfaite. Saviez-vous que cette Église, l'Église du Cèpe, était la seule Église parfaite dans le pays de Gex, jusqu'au moment où je suis arrivé. Donc, c'est la beauté de l'Église, c'est qu'on est des êtres imparfaits. Et je vais, donc, par conséquent, je vais lancer sur ce que je ressentais. J'aimerais compléter le message de la semaine passée. Et donc, je vais simplement, en quatre diapos, faire un petit recap, un récapitulatif de ce qui a été dit la semaine passée. Donc, même si vous ne l'avez pas entendu, vous allez pouvoir rejoindre le train. Et pour nous, ça nous permet de nous remettre dedans le sujet. Donc, il y avait deux points. On a vraiment mentionné le fait qu'on a parlé d'un engagement voué à l'échec. Deuxième point, un engagement voué à l'échec. Et le troisième, c'était l'échec voué à l'échec. Et il n'y a quasiment rien qui a été dit sur l'échec qui a été voué à l'échec. Et on voit que de l'Ancien au Nouveau Testament jusqu'à aujourd'hui, que nos engagements, nous n'arrivons pas à les tenir. Et spirituellement, c'est pire que n'importe quoi. On a vu Josué 24, le premier et le dernier chapitre. Mais première diapo qui résume un petit peu, hein, une phrase qui résume bien, c'est que la prise de conscience de notre échec spirituel marque le début de notre succès dans ce domaine. Donc cette prise de conscience que nous sommes en échec est le début de notre succès, parce que lorsque tu touches le fond, tu ne peux rien faire d'autre que remonter et te tourner vers Jésus. Prochaine diapo. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes incapables sans Dieu, tout devient possible en Christ. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes incapables sans Dieu, tout devient possible en Christ. Et la dernière, ou presque l'avant-dernière, Jésus, la diapo, Jésus n'est pas mort pour nos mauvaises actions, mais à cause de notre mauvaise nature. Et je veux rappeler un peu ce point-là, où je pense qu'on n'a peut-être pas très bien compris ce que ça veut dire, que le fait que Jésus est mort à cause de notre mauvaise nature. Et souvent, dans notre vie chrétienne, on évalue notre semaine au nombre, aux gens, et à la quantité de péchés ou petits péchés que nous avons faits. Et en fonction de ça, on dit, ben c'est bon, je suis un bon chrétien aujourd'hui. Et je mentionnais que nous sommes tellement accrochés aux péchés que nous commettons, aux erreurs que nous commettons, alors que Jésus a fait plus que ça. Il est venu à cause de notre mauvaise nature. Et je mentionnais, on est tellement concentrés sur la pornographie, sur le vol, sur le mensonge, sur tous les péchés qui pourraient se nommer. Mais en fait, on ne réalise pas qu'à quelque part, ça, ce sont que les branches. Ce ne sont que les symptômes. C'est comme c'est comme soigner le symptôme plutôt que la cause. Et la bonne nouvelle arrive à ce moment-là, lorsqu'on comprend que Jésus est venu mourir à cause de notre mauvaise nature. Et c'est le plus grand des miracles. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris l'Évangile. L'Évangile qui veut dire bonne nouvelle. Tu n'as pas compris ce que c'est l'Évangile. Jésus, et c'est le plus grand des miracles, parce qu'il est venu changer notre nature ou ajouter sa nature en nous. En fait, je prenais l'exemple que nous sommes naturellement, nous ressemblons à des mouches à, on est dans une église donc on va rester poli, des mouches à bouse. On ne réalise pas, mais quand on parle de nature, la nature d'un poisson c'est d'être dans l'eau. La nature d'un zèbre c'est d'avoir des rayures noires et blanches. La nature d'une mouche c'est d'aller sur la bouse. Et parfois, lorsque nous n'avons pas Christ en nous, nous avons cette tendance d'aller à nous mettre dans le trou, à mettre dans le pétrin, et parfois même on y prend plaisir. On est comme ces mouches. Sans Jésus, nous sommes comme ces mouches. Et Jésus va venir faire une œuvre, où, et c'est là que je dis que c'est le plus grand des miracles, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui un peu plus en détail. Il va venir faire une œuvre où il va faire de cette mouche une colombe, ou plutôt il va ajouter une colombe. La présence de son esprit en nous, colombe, symbole de l'esprit. Et on a besoin de comprendre ça. Nous sommes incapables par nous-mêmes. Et tout est une question de confiance. Nous avons vu que bien avant que le peuple de Dieu s'attache à Dieu, Jésus s'était approprié. Depuis le début, il dit « Tu es mon peuple, je t'aime ». Il n'a pas attendu que nous disions « Tu es notre Dieu ». Hein, Josué chapitre 1, qui, que l'Éternel ton Dieu, puis Josué le dernier chapitre, c'est notre. Nous n'abandonnerons pas notre Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le domaine de l'expérience où Dieu est devenu leur Dieu. Leur Dieu. Et le même engagement où Jésus va dire « Est-ce que vous êtes prêts à me suivre ?» Voilà ce que ça implique, manger ma chair et mon sang, ce qui veut dire clairement, il faut que tu donnes ta vie au complet. Il y en a qui, plusieurs de ses disciples l'ont quitté. Et là, il va se retourner vers les 12 et dit « Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Et à un moment donné, au Jean chapitre 6, verset 69, dit « Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. » Jean chapitre 6, 69, qui fait référence au verset central de la Bible. Est-ce que vous vous rappelez quel est le verset central de la Bible? Le verset, pas le chapitre, le verset? Psaume 118, 8. Il y a 594 chapitres avant le psaume 118, verset 8, et 594 chapitres après le psaume 118, verset 8, qui nous dit « Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. » Ça résume tout. Ça résume tout. Le titre du message aujourd'hui, c'est « La mouche et la colombe ». Le titre est « La mouche et la colombe ». Et la mouche et la colombe est loin d'être une fable de la fontaine. La mouche et la colombe est ce message qui décrit trois de nos réalités, qui décrit trois de nos réalités où il est question du plus vieux des enjeux, du plus violent des combats et du plus vivant des miracles. C'est les trois choses que nous allons regarder ce matin. Du plus vieux des enjeux. On ne lira pas les textes, vous pourrez lire les premiers deux, trois chapitres de la Genèse, mais c'est le plus vieux des enjeux remonte à la Genèse, au temps biblique. C'est notre confiance en Dieu. Le diable arrive et commence à attaquer la crédibilité de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit que si tu manges cet arbre-là, tu vas mourir? Est-ce qu'il a vraiment dit? Sème le doute. Et il attaque la crédibilité de Dieu. Et il va chatouiller l'identité de l'homme en disant, si tu fais ce que je te dis, tu vas devenir comme Dieu. Il vient chercher son identité. Ah ouais, je pourrais devenir comme Dieu. Ils se sont plantés, mais complètement. Et à partir de là, l'homme, on sait ce qui va se passer. Va désobéir et il y a quelque chose qui va mourir en lui. D'ailleurs, c'est là qu'il va réaliser, Adam et Ève vont réaliser qu'ils sont nus, chose qu'ils ne réalisaient pas, ils étaient en communion parfaite avec Dieu. Là, il y a quelque chose, ils réalisent leur nature, ils sont nus, il y a quelque chose qui s'est dénaturé. Leur nature est devenue, ce n'est plus quelque chose qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils sont devenus. Nous sommes, ce n'est pas que nous commettons des péchés, c'est que nous sommes pécheurs, c'est notre nature. Et c'est ça que Jésus vient attaquer ou libérer en nous. Je dirais simplement, prochaine diapo, notre désobéissance provient d'un désir d'indépendance et d'un manque de confiance en Dieu. C'est le plus vieux des enjeux. Adam et Ève voulaient leur indépendance, mais ça provenait d'un manque de confiance en Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit, ouais, c'est vrai, en fait, le Seigneur, le Créateur, peut-être qu'il est en train de nous en passer une, là. Et ils ont placé leur confiance dans ce diable représenté sous la forme d'un serpent. C'est le plus vieux des enjeux, la confiance, encore aujourd'hui. D'ailleurs, le mot foi, hein, qui veut dire fidélité aussi, mais il y a aussi cette dimension d'avoir la foi, c'est avoir confiance en Dieu. Et ça a engendré le plus violent des combats. Je dis que c'est le plus violent des combats parce qu'il est au quotidien, il est dans la vie de chacun et chacune d'entre nous. Et à partir de ce moment-là où l'homme a désobéi, s'est détourné de son père, il perd les repères, il y a quelque chose en lui qui est mort. Et ce quelque chose-là, c'est simplement cette communion spirituelle qu'il a avec Dieu, il ne l'a plus. Il y a quelque chose qui est déconnecté. Et quand on parle d'être un être charnel, bibliquement, c'est simplement pour mentionner qu'un être charnel, c'est quelqu'un qui est un homme, une femme, un être humain, mais qui n'est plus animé des motifs ou de la communion de l'Esprit de Dieu. C'est coupé. Il y a quelque chose qui est coupé, qui est rompu. Il n'y a plus ce contact, il n'y a plus cette transparence. Et à partir de là, il y a le plus violent des combats commence. Un combat entre le bien et le mal. Un combat entre les ténèbres et la lumière. Un combat entre la vie et la mort. Un combat entre la chair et l'esprit. Nos désirs naturels, la chair et l'esprit de Dieu, la volonté de Dieu. Un combat entre Belzébul et l'Esprit Saint. Un combat entre la mouche et la colombe. Un combat entre la mouche et la colombe. L'image de la mouche, je ne l'ai pas sortie de mon imaginaire. C'est une belle image pour décrire ce qu'il pourrait y avoir de plus... pour donner une image au péché. Je veux juste faire ceci, petite parenthèse, on parle du péché, des fois on a des notions, des conceptions par rapport au péché. Le mot péché en grec veut dire amartia. En fait, le péché ne veut dire ni plus ni moins manquer la cible. Péché, c'est manquer la cible, de faire quelque chose pour laquelle nous n'avons pas été créés pour. J'aime bien donner cette illustration, je l'ai déjà dite ici, mais je le répète pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Lorsque tu es dans une Ferrari et que tu peux rouler à, je ne sais pas combien roule une Ferrari, 300 et quelques kilomètres, j'en sais rien, ou peut-être plus, bref, et que tu roules à 60 km/h sur l'autoroute, c'est péché. Tu manques la cible. Cette Ferrari n'est pas faite pour rouler à 60 km/h. Par contre, il y a des policiers qui sont faits pour t'attraper, oui, si tu dépasses la limite. C'est péché parce que tu manques la cible. Cette Ferrari, elle est faite pour allume le moteur. Et dans nos vies, il y a des choses que l'on fait et on manque la cible. Nous faisons des choses alors que nous ne sommes pas à la base créés pour faire ces choses-là, pour penser comme ça, pour agir comme ceci. On pêche. On pêche. Et depuis ce jour-là, on est coupé de cette communion avec Dieu. Nous n'arrivons plus à nous élever plus haut que le serpent qui rampait sur terre. Nous sommes attachés aux choses de la terre, aux choses de la chair, à nos désirs, à nos passions, et on ne sait pas comment s'en sortir. Cette nature qui est là en nous, c'est plus fort que nous. L'apôtre Paul va dire, je fais ce que je veux pas et je ne fais pas ce que je voudrais. Il y a un combat, c'est le plus violent des combats, il n'y a personne qui est à l'abri. Que tu sois croyant ou non croyant, même en étant non croyant, il y a des choses, pourquoi j'arrive pas? La grosse différence, c'est que Jésus va implanter sa nature en nous, on va regarder comment. Et là, il y a vraiment un combat qui prend place parce que là, le combat, il est là. J'ai dit un combat entre Belzébul et l'Esprit-Saint, un combat entre la mouche et la colombe. Marc, chapitre 3, verset 22, les spécialistes de la loi qui étaient venus de Jérusalem disaient, il est sous l'emprise de Belzébul, en parlant de Jésus. C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse des démons. Jésus accomplit des miracles et là, on l'accuse. On dit, Jésus arrive à accomplir des miracles grâce au prince des démons. Et Jésus, là, je ne rentrerai pas dans le débat du texte en question, mais il va simplement dire, il n'y a que l'Esprit Saint qui peut combattre et chasser ces mauvais esprits. Mais ce qui est intéressant, le terme Belzébul, on le retrouve trois fois dans le Nouveau Testament, une fois dans l'Ancien, dans 2 Rois, chapitre 2, on ne va pas lire le texte, mais il y a une histoire qui est intéressante, où il y a un roi, Ahazias, qui va tomber de sa fenêtre, va faire un accident grave. Demandez-moi pas comment est-ce qu'il s'est organisé pour tomber de sa fenêtre. Il est tombé de sa fenêtre, un accident grave. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des messagers pour consulter Baal-Zébub. Il y a plusieurs étymologies pour Belzébuth ou Belzébul. Baal-Zébub. Et là, à cette époque-là, le prophète de l'époque, Élie, va entendre ça, il va recevoir une parole de Dieu et il va dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël pour que tu ailles consulter un Dieu étranger? Voyez-vous, on revient à la notion de confiance. Il tombe de sa fenêtre, il y a un accident, il envoie des messagers plutôt que de consulter son Dieu. Pourquoi est-ce que tu ne me fais pas confiance? Il n'y a pas un Dieu en Israël qui peut t'aider plutôt que de mettre ta confiance dans Belzébul, le Dieu d'écran? Et c'est intéressant parce que Belzébul, la prochaine diapo, peu importe comment est-ce qu'il est décrit, vous l'avez devant vous, Belzébul ou Baal-Zébub, on n'est pas loin de Boub la bouse, considéré comme un démon, un prince couronné de l'enfer, dans la hiérarchie, il serait juste en dessous de Lucifer, mais ce n'est pas là le propos. Mais c'est intéressant parce que Baal veut dire maître. Et Zéboul, mouche, Zéboub ou Zéboul, mouche. Autrement dit, en règle générale, on retrouve toujours la même pensée, c'est que Belzébuth, Baal-Zébub, veut dire simplement Seigneur du fumier, le maître des mouches. Et Seigneur du fumier, dans le Zéboub, c'est une variante du verbe Zabal, qui voudrait dire, qui est le sens de enfumer. C'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le serpent arrive, qu'est-ce qu'il dit? Tiens, il y a une expression, je me suis fait enfumer cette semaine. Ah, il cherche à m'enfumer. Et c'est exactement ce que le serpent, c'est exactement ce que le diable a fait avec Adam et Ève. Il les a complètement enfumés. Ouais, il a semé la confusion, semé le doute. Puis à partir de là, c'est la déchéance complète. Seigneur du fumier, sans enfumer. Seigneur de tout ce qui vole. Certains vont dire que ce terme, avec le temps, a été pris. Il y a plusieurs terminologies, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, qui pourraient dire Seigneur des mouches, des moustiques ou de petits insectes. Et certains ont pensent qu'il y a un aspect ironique là-dedans. C'était une façon de pointer du doigt ce qui était nuisible et inutile. Une façon de se moquer, de réduire ce Dieu-là à quelque chose de moindre importance. Mais c'est intéressant quand même, Seigneur du fumier, Seigneur de tout ce qui vole. Seigneur de tout ce qui vole. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air. Mentalité ambiante de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère comme tous les autres. Il y a cette dimension, le prince des mouches. Il y a un combat entre la mouche et la colombe, entre ce diable qui cherche à séduire à travers toutes sortes d'occasions, et ceci et cela. Et là, l'homme sans Jésus est perdu. Jusqu'au moment où, là, on arrive dans l'échec voué à l'échec. Et là, en fait, on arrive à, dans tout ce qu'on a chanté et prié, par soi-même, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. C'est comme un virus dans l'informatique. Un virus dans la clé USB ne peut pas s'auto-délivrer du virus. Il faut que quelqu'un prenne la clé USB, l'amène chez un spécialiste pour essayer de retirer le virus. C'est une image, évidemment. Et ce que Christ a fait, c'est qu'il est arrivé et il a enlevé ce virus qui est le péché en introduisant sa propre nature. Et parfois dans nos vies, ça explique beaucoup de choses. On est attiré, il y a ces deux natures qui sont là et ça vient chercher notre corps, cette nature charnelle, et ça vient affecter toutes nos relations. Avec la rancune, l'amertume, la jalousie, toutes sortes, et ça affecte nos relations. Et parfois, on se comporte comme si on n'avait pas reçu cette nouvelle nature de Christ en nous. On va regarder maintenant le plus vivant des miracles. La mouche et la colombe, c'est l'histoire d'un fait qui est le plus vivant des miracles. Je n'ai pas dit le plus grand des miracles, même si ça l'est, je l'ai mentionné. Je précise le plus vivant des miracles. Parce qu'en 2020, aujourd'hui encore, ce miracle s'accomplit dans la vie de dizaines et de dizaines de personnes, toutes cultures confondues à travers la planète. Je ne vous parle pas d'une religion, je ne vous parle pas d'une église. La Bible ne nous parle pas d'une religion, elle ne nous parle pas d'une église, elle ne nous parle pas d'une dénomination, elle nous parle d'un sauveur qui est venu changer, qui est venu transformer notre nature. Et ce miracle est vivant encore aujourd'hui. C'est plus miraculeux que de voir un paralytique marcher, parce que c'est juste extraordinaire. C'est ce que nous sommes. C'est comme changer les rayures d'un zèbre en rayures de léopard, par exemple. C'est juste miraculeux. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ceci. Et là, vous vous dites, mais comment est-ce qu'il a fait ça? Puis si vous ne posez pas la question, je la pose. Comment est-ce qu'il a fait ça? On arrive dans Jean chapitre 1, verset 12. Au commencement était la lumière, etc. Il y en a qui l'ont accueilli, d'autres non. Verset 12, ça nous dit, « Certains pourtant l'ont accueilli, en parlant de ce Jésus qui est né, le Verbe incarné. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. » Ce n'est pas fini. Dernier verset de ce texte. « Ce n'est pas par une naissance naturelle ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, d'un mari par exemple, qu'ils sont devenus enfants de Dieu, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. » J'aimerais dire que l'on ne naît pas chrétien. On devient. Il y a, oui, toutes sortes de religions, et dans les passeports, c'est écrit, mes parents étaient catholiques, mes parents étaient protestants, mes parents étaient orthodoxes, mes parents étaient musulmans, mes parents étaient ceci, puis là, boum, c'est signé. Ça, c'est une institution. C'est tout ce qui est de la religion. Mais quand on parle de chrétien au sens biblique du terme, tu ne l'as pas par naissance naturelle. Ce texte-là nous le dit. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu. C'est lui qui a fait cette œuvre. Wow. C'est dur à entendre parce qu'en fait, on n'a aucun mérite. Il n'y a personne qui peut se dire, « Yeah, allez, moi, j'ai-tu fait le bon choix. Hein? » Personne ne peut se dire ça. Regardez comment le verset juste avant. Et voilà comment. Certains, pourtant, l'ont accueilli et ils sont devenus enfants de Dieu en donnant leur argent. Ils sont devenus enfants de Dieu en faisant des bonnes œuvres. Ils sont devenus enfants de Dieu parce qu'ils faisaient partie d'une famille, une bonne famille chrétienne. Ils sont devenus enfants de Dieu parce que... Non, ils sont devenus enfants de Dieu parce qu'ils ont cru. Ils ont cru. C'est ça le message de la bonne nouvelle. Ils ont cru. Et à partir du moment où je place ma foi, je place ma confiance, encore cette notion de confiance, je place ma confiance dans l'œuvre qui a été accomplie sur cette croix où c'est moi qui aurais dû être là. C'est moi qui aurais dû être sur cette croix à cause de ma nature. Mais Christ a pris ma place. Et à partir du moment où je place ma confiance, je suis comme un morceau de plante qui vient me greffer et je bénéficie de la vie de Christ. À partir du moment où nous croyons en Jésus, c'est l'image du lézard que nous avons entendue au début, où je mets mes quatre pattes dans la flaque. Venez à moi et des fleuves d'eau vive couleront de mon sein, dit Jésus. Et lorsqu'on vient à lui et que je mets mes quatre pattes, je mets mon cœur, je mets ma face, je mets tout, et bien à un moment donné, l'eau commence à monter, et là, je peux boire. Parce que je suis greffé, je reçois une nouvelle nature. Et trop de fois, nous nous comportons comme si nous n'avions pas reçu cette nature. Comment la nature est déterminée aussi par celui qui l'engendre. Un animal engendre un animal. Tu ne peux pas enfanter un chameau. Si tu es enceinte aujourd'hui, je te promets un truc, tu ne vas ni enfanter d'un poisson, ni d'un chat, ni d'un petit minou, ni d'un chameau. Parce que ce n'est pas dans ta nature, tu vas enfanter d'un enfant, d'un être humain. Tu ne peux pas cueillir des tomates sur un cocotier. Parce que la nature du cocotier, c'est des cocotiers. On voit que j'ai fait des études quand même. Mais la Bible va le dire dans son langage, la chair engendre les choses de la chair. L'esprit engendre des choses de l'esprit. Il y a plusieurs choses qui déterminent notre nature. L'alimentation, l'environnement, les fréquentations permettent d'identifier la nature d'un être vivant. La prière est mon environnement dans cette nouvelle nature que j'ai reçue de Christ. La prière est mon environnement. Et là, je m'adresse à tous ceux et toutes celles qui passent des moments difficiles dans leur semaine où tu te comportes comme si tu avais uniquement la mouche parce qu'elle est encore là. Dans le ciel, ça va être complètement réglé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avant, on avait juste la mouche. Maintenant, on a l'Esprit de Dieu avec nous. On a la présence, l'amour de Christ avec nous. Et trop souvent, on se comporte comme si on n'avait que la nature pécheresse, et tu ne te rappelles plus que Jésus a payé pour tes péchés. Jésus a donné sa vie, pas seulement sa vie physique à la croix, mais il a livré sa vie. Ce que ça veut dire littéralement, c'est qu'il a livré son caractère, sa personnalité, sa façon de faire, sa façon de penser. Il te l'a livré par son esprit. Il dit, c'est plus avantageux pour vous que j'aille auprès du Père afin que je puisse vous envoyer ma nature, mon esprit. Et on se comporte comme si ça n'avait jamais existé. Et tu traverses des moments difficiles dans ta vie, que ce soit au niveau de relations de travail, familiales, financières, peu importe. Et puis là, on est dans l'abattement. Puis je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas facile, que ce n'est pas difficile. Oui, c'est difficile. Mais nous avons besoin d'apprendre à nourrir la colombe. Nous avons besoin d'apprendre à marcher selon cette nature qui nous a été donnée, la nature de l'esprit. Parce que, alors que l'esprit engendre les choses de l'esprit. Mais pour ça, tu as besoin d'aller chercher. Mon environnement, c'est la prière, comme l'eau est l'environnement du poisson. Et quand je rentre, quand j'ai des moments difficiles, je rentre dans l'environnement de ma prière, de la prière. Et là, mon mindset commence à changer. Mes émotions commencent à changer. Pourquoi? Parce que je me connecte à Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui prend place. Parce qu'on ne parle pas d'une religion, on parle d'un Dieu qui est vivant, qui t'aime, qui prend soin de toi. La Bible est mon alimentation. Je vais chercher ce que j'ai besoin. Je me nourris. Je nourris cette nature spirituelle que j'ai reçue. Mes fréquentations, je me tiens avec des frères d'armes, des sœurs d'armes. Quelqu'un m'a envoyé une photo d'ailleurs genre, cette semaine. Les sœurs d'armes, je trouvais ça pas le même effet, mais bon, quand même. Avis personnel. Donc je me tiens, et parfois dans les moments difficiles, notre premier réflexe c'est « je m'isole ». Je me sens pas digne de prier. Non, ton environnement, c'est la prière. Va, et je m'adresse à tous les hommes mariés où nous avons un rôle de prendre soin de nos foyers. Et les femmes aussi, les épouses aussi, c'est valable. Mais à plus forte raison, j'appelle chaque homme de son foyer à se tenir dans la prière. Je vais plonger dans la prière et être une source d'encouragement. Et au lieu de m'isoler dans mon coin, je vais me tenir avec, mes, avec ceux qui sont de la même trempe que moi, de la même nature que moi, des frères et des sœurs d'armes. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que depuis que tu as cette nature-là, il faut que tu aies plus d'amis qui ne partagent pas la même foi que toi. Moi, j'ai plein d'amis qui ne partagent pas la même foi que moi. Plein, j'exagère peut-être, mais j'en ai plusieurs. Moi, ouais, je pourrais dire plein peut-être. Mais j'ai plusieurs amis. Au cours de ma vie, je pourrais dire oui, j'ai plein d'amis. J'en ai encore. En étant avec mes amis, je ne cherche pas qui ne partagent pas la même foi, je ne cherche pas à imposer mes convictions, je cherche à être une source de bénédiction et d'encouragement pour leur vie. Mais dans les moments difficiles, ben tu vas te tenir avec ceux qui ont les mêmes combats que toi. Cet après-midi, on a à 17h, viens frère d'âme, on va regarder un film, on va partager ensemble, on va avoir un apéro plus, ça c'est le top du top. Viens, ça fait du bien de parler. T'as pas le moral, viens. Reste pas seul. Ça fait partie de cultiver cette nature que nous avons reçue. Trop de chrétiens se comportent comme des canards alors que nous sommes faits pour voler comme des aigles. On a tous entendu cette histoire à l'école, hein, du cygne qui est dans la famille de canards, puis là qui est rejeté jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne. Puis tout le monde le traite comme un canard. Lui, il veut être comme un canard jusqu'au jour qu'il réalise, mais non, je suis un cygne. J'aimerais simplement dire que nous, trop de chrétiens, on se comportent comme des canards, comme des mouches, alors que tu es un aigle, tu as reçu la nature de Christ en toi. Et je termine. Comment ça s'est fait? Dernier verset, je vais avoir besoin de deux personnes en terminant. Philippiens chapitre 2, versets 6 et 8, on l'a entendu ce matin. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine en parlant de Jésus, donc encore une fois, condition de nature divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. « Oh, quand même, moi je suis comme Dieu. » Non, non, il s'est abaissé. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur et s'est rendu semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Oui, la mort sur la croix. Et c'est là qu'il prend sur lui notre nature, nos péchés. J'ai besoin de deux personnes et je termine avec ça parce que la question réside maintenant pour qu'on puisse comprendre. Alors, je vais demander à Pierre. Pierre, c'est sûr que... Pourquoi Pierre? Parce que Pierre, je le connais. Alors, ce n'est pas dire que vous n'êtes pas digne de confiance, mais Pierre, je le connais. Pierre, est-ce que je pourrais avoir... Ethan. Pierre, je le connais, puis je sais que Pierre, il est capable de soulever de la fonte. OK, c'est pour ça que je passe. Tu peux te mettre debout sur cette chaise face à Pierre. Oui, puis moi je vais venir devant toi aussi. Debout face à Pierre. Pierre, je le connais. Donc j'ai pas de problème ou presque pas de problème à mettre ma confiance en Pierre. Non, toi tu as le beau rôle, tu vas voir, tu as le beau rôle. Et avec Jésus, c'est comme ça, je mets ma confiance en Jésus parce que j'ai appris à le connaître. Puis il ne m'a jamais déçu. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu de problème, ça ne veut pas dire que toutes mes prières ont été répondues, ça ne veut pas dire que c'est le ciel sur la terre tous les jours. Il ne m'a jamais déçu. Et voici comment est-ce que nous sommes, nous. Ça, c'est moi. Tu vas me tenir. Tu vas faire en sorte que je ne tombe pas, d'accord? Et là, moi, je mets ma confiance. Je mets ma confiance dans mes propres forces, je mets ma confiance dans mon agenda, je mets ma confiance dans mes expériences, je mets ma confiance dans mes diplômes, je mets ma confiance dans mon salaire, je mets ma confiance dans ma réputation. Et tout ça, c'est des bonnes choses. C'est pas mauvais en soi. Je mets ma confiance et là, à un moment donné, je dis, mais pourquoi est-ce que dans ma vie, je vois pas la croissance de Christ en moi? La croissance de Christ, c'est simplement voir son caractère grandir en moi. Pourquoi je n'expérimente pas sa puissance, sa présence? Pourquoi? Puis j'entends des messages, mais fais confiance à lui. Ah oui, OK, faut que je fasse confiance. Alors là tu me tiens une main, tu me lâches l'autre, voilà, mais tu me tiens l'autre main. Puis là je vais, OK, Jésus, oui, d'accord, ah ouais, je vais faire confiance. Mais là, je peux pas parce que je suis pris. tant qu'il existera une infime illusion dans tes pensées que tu peux t'en sortir par toi-même, tu n'expérimenteras pas ou si peu la puissance et la présence de Dieu dans ta vie. À un moment donné, il faut que... faut que tu fasses le grand saut. Mais ça fait peur faire le grand saut. Parce que faire le grand saut, ça veut dire que je renonce peut-être à des années de tradition chrétienne, de religiosité, de religion, de façon de faire, de rites, de rituels, de confort personnel. Ça implique tellement de choses que je suis... Non. Puis là, on se dit, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à avancer spirituellement? Pourquoi je vois pas le ciel dans ma vie à ce point-là? Mais à un moment donné, faut que tu fasses... J'ai terminé. Il y a un combat entre la mouche et la colombe. Un enjeu de confiance qui remonte à la nuit des temps. Un combat qui se livre tout le temps dans notre vie. Mais c'est le plus vivant des miracles parce que tu peux sortir de ce lieu. Et si tu mets en pratique simplement, « Seigneur, je crois. » C'est moi qui aurais dû être là. Si on mettait en scanner visible toutes mes pensées cachées, mes motifs cachés, il n'y a pas une personne dans ce lieu, à commencer par celui qui vous prêche, qui ne rougirait pas. Pas une, du plus jeune au plus âgé. On rougirait de honte. Puis on ne sait pas comment s'en sortir. Et Jésus, il dit, keep cool, version 2020. Prends ça cool. Moi, j'ai donné ma vie, j'ai fait ce que toi, tu n'es pas capable de faire. Afin qu'à partir du moment où tu le fasses, mon esprit rentre en toi. Viennent habiter. Et là, tu as juste la responsabilité de nourrir ce qu'il t'a offert. Mais tout est pardonné. Tout est pardonné. Quelle bonne nouvelle. C'est un échec voué à l'échec grâce à la puissance de la croix. La croix, c'est ce pion qui se place comme le roi des rois pour dire échec et mat. Que le Seigneur vous bénisse.